Selon ce que j'ai appris de mon éditeur, il y avait un bon emplacement de l'album et il était très bien accueilli par les libraires. J'ai eu des notes, mais j'ai pas des chiffres, c'est encore trop tôt. Donc, espérons-le.
Vous avez travaillé avec Frédéric Lenoir. C'est son best-seller, adapté en BD. Comment s'est passée cette collaboration, cette rencontre ?
Bien, c'est Jacques qui m'avait proposé de faire cette BD. Le scénario, c'est Frédéric Lenoir avait présenté le scénario avant qu'il avait terminé son roman, en pensant de le publier d'abord en BD. Donc, les négociations tardaient un peu, quelques années en plus. Et puis, entre-temps, son roman était publié chez Gallimard. Et Gallimard voulait quand même que le roman soit bien placé et qu'on publie la bande dessinée un an plus tard, après la publication du roman. Donc après, il m'a demandé de faire le découpage, le dessin, les textes, etc. Mais comme moi, je ne suis pas francophone, je suis néerlandophone, ça me tombait très lourd, donc de faire le découpage, le dialogue, etc. Donc j'ai fait la première moitié de l'album. Et après, j'ai rencontré Rodolphe, qui a un peu plus d'expérience que moi dans ce genre de datation. Alors il m'a aidé, et ça fonctionnait très bien. Donc pour le deuxième, troisième et quatrième, c'est lui qui va s'en occuper. Voilà.
Donc 4 tomes.
4 tomes, effectivement.
Je voulais vous le demander à la fin, mais vous le dites, c'est très bien, voilà. Donc, racontez-nous l'Oracle de la Luna.
L'Oracle de la Luna, c'est une histoire qui peut se lire sur plusieurs niveaux. Au début, ça commence avec un garçon de campagne de Toscane qui tombe amoureux d'une belle noble, une femme noble de 16 ans à peu près, mais qui est c'est trop loin de lui, qui est un pauvre paysan. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour l'impressionner, pour apprendre, pour être un homme culte, pour, avec la fin, de le séduire. Mais ce voyage, parce qu'il échappe de son village, et tout ce qu'il va faire, c'est converti dans une espèce de voyage d'initiation spirituelle, et c'est une leçon de vie. Donc pendant les 15 ans de voyage qu'il fait, il va vivre une vie vraiment rocambolesque et vraiment très difficile. Il va rencontrer Luna, qui est une sorcière, et qui va lui prédire son avenir. Et entre autres, il va commettre 3 meurtres. Il va assassiner 3 hommes. Il peut pas le croire, parce que c'est un garçon innocent et tout. Donc voilà, c'est là où commence vraiment son calvaire, mais aussi sa voyage d'initiation.
Très bien. Comment avez-vous défini les traits des différents personnages ?
C'est comme avec des autres BD, c'est des autres histoires. Parfois c'est un film, parfois c'est une photo dans le journal, dans une magazine, des personnes que je rencontre. C'est un peu une amalgame des impressions, je pense. Mais c'est aussi basé sur le caractère des personnages.
Vous êtes-vous documenté pour les décors et les accessoires, les vêtements, habits et autres de l'Italie du XVIe siècle ?
Oui, absolument. Là, pour Venise, par exemple, ce sont des décors que je connaissais assez bien à cause des 15 albums de Jacques Mosset que j'ai fait avec Jean Dufaux. Donc, après, j'ai fait un voyage en Toscane. J'étais aux Abruzzes et j'ai pris pas mal de photos. Des centaines en plus, pour les décors qui sont splendides, bien sûr.
On n'en doute pas parce que c'est vrai que c'est très détaillé vos dessins et on aime, on apprécie beaucoup. Le deuxième tocle de l'Oracle de la Luna sortira début avril 2013. Où en êtes-vous dans ce travail de la BD, de cette BD-là ?
La deuxième est terminée, je suis sur le troisième, je ne chiome pas. Et le troisième probablement va apparaître vers la fin de l'année.
D'accord, donc c'est un travail assez intensif là.
Oui, j'ai commencé. J'ai fait ça avec Shoreman aussi. J'ai bossé pendant 3 ans sur la série. Du fait que l'éditeur, ça permet à l'éditeur de le publier à un rythme assez soutenu, ce qui apparemment une sorte d'exigence de du marché. Les gens aiment bien, n'aiment plus attendre un an. Avant le prochain album apparaît, donc la pression sur les pauvres dessinateurs est de plus en plus insupportable.
Mais c'est vrai qu'aussi pour vous, ça évite de faire une coupure et après de se réintégrer, de se réimprégner de l'histoire.
Oui, tout à fait. Non, moi personnellement, je préfère ça parce que je travaille assez vite, mais comme ça, on reste dans l'atmosphère. Si je travaillerais plus lentement ou si je m'occupe d'une autre histoire, ça devient plus difficile. Maintenant, c'est vraiment pendant 3 ans que je suis dans cette atmosphère et ça va être plutôt difficile d'en sortir.
Pouvez-vous nous révéler quelques informations sur le deuxième tome qui va sortir en avril ?
Comme je disais, Luna lui a prédit son destin. Alors il va arriver à Venise, où habite sa bien-aimée, qu'il n'a pas encore parlé. Et entre-temps, avant d'arriver à Venise, il a rencontré un maître Lucius, qui est un sage, qui est un astronome et tout ça. Il va apprendre la lecture, il va apprendre aussi de se défendre à l'épée pendant 3 ans. Donc après, il va arriver à Venise, poursuite par une secte secrète qui va essayer de lui voler le document que le maître Lucius lui a confié pour donner au pape. Donc c'est un truc religieux aussi. Alors là, il va se défendre en épée pour défendre l'honneur de la femme qu'il aime. Et je ne vais pas raconter beaucoup plus parce que je ne sais pas s'il va mourir ou pas.
Eh bien, on le saura en avril. Avez-vous d'autres projets après l'Oracle de la Luna ?
J'avais un projet que j'avais terminé il y a 5 ans. J'ai dû patienter parce que c'est un diptyque que je fais pas tout seul. C'est une diptyque basée sur la mise en abîme. Et moi j'ai fait le premier album, c'est avec Valérie Mangin, sur la vie de Balzac. Donc il vient juste apparaître chez Dupuis et je suis très content parce que j'étais très patient pendant 5 ans pour voir le résultat.
Eh bien, Griffo, je vous remercie et je vous souhaite un bon festival.